Et ouais, le morning foot avec Lino Bacco. On va faire le tour de l'actu foot du week-end. Hein. Alors bon, moi j'aimerais bien commencer par la fin, mais bon, je vais te laisser faire tout ça. Ouais. Hier, on a joué deux matchs en retard de Botola Pro 1. C'était une très belle affiche à Tanger où l'Etihad recevait Berkane. Et puis, il y a eu une sorte de levée de rideau disputée en début de soirée à Rabat. Le FUS accueillait Bni Mellal. Alors si je comprends bien Lino, les Mellali ont pratiquement un pied en D2, mais ils continuent de s'accrocher de toutes leurs force, est-ce que tu vas nous dire ce qui s'est passé encore hier soir?
Je serais tenté de dire tout à fait.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est vrai que Bni Mellal, ils sont derniers, ils ont 11 points. Ils sont à 11 points de l'avant-dernier.
Ouais. Hein.
Et puis le temps presse parce que bon, nous sommes à la... Bon là, on joue la 23e journée, des matchs en retard. En fait, il y a une seule équipe qui a joué tous ces matchs, c'est Berichit qui a joué 26 matchs. Et ça promet donc une fin de championnat époustouflante. Et cette équipe de Bni Mellal qui s'accroche, hein, qui s'accroche désespérément, a encore, donc elle a fait encore match nul. Donc face à une équipe du FUS qui, comme d'habitude, ça manque un peu de personnalité, ça manque de niaque, de volonté. Ils prennent l'avantage sur un pénalty. Les FUSistes prennent l'avantage sur un pénalty de Campos à la 55e minute. Et puis Benjeloun égalise toujours ce penalty, un penalty qui était un peu moins visible, je dirais entre guillemets, puisque il a fallu l'assistance de la VAR pour faire prendre la décision à l'arbitre.
Benjeloun au FUS.
Benjeloun, donc égalisation de Bni Mellal.
Mais tu vois, faut que tu me dises, hein, tu sais, moi, je te fais confiance aveugle.
Oui, oui.
Hein, mais
oui,
tu
oui.
Vois. Je voyais ce que tu filais.
Alors, en revanche, il y a un ancien fusiste qui ne pouvait pas jouer, hein, c'est le gardien de but Ayman Majid, hein, qui est le frère de Mokhtar qui joue à Safi. Et dans son contrat, donc, il ne pouvait pas jouer contre le FUS, ce qui fait que, alors ça c'est ridicule, il va falloir peut-être y réfléchir un jour ou l'autre. Du moment que tu as cédé un joueur, je vois pas pourquoi il ne peut plus jouer contre toi ou etc. Donc bon, bref, il a pas joué et c'est dommage parce que c'était quand même le gardien titulaire de Bni Mellal.
Alors revenons au choc Tanger-Berkane. Est-ce que ça a tenu ses promesses? C'était un match décisif pour les Berkanais qui ont annoncé depuis longtemps la couleur, mais aussi pour les Tangérois qui luttent quoi pour se maintenir.
Oui, alors ça c'est curieux aussi. Et voilà, donc une équipe comme l'IRT qui se retrouve avant-dernière avec 23 matchs, 22 points. Donc après ce match nul, donc un but partout aussi avec Berkane. C'est une équipe qui venait de deux victoires. Elle a battu le Raja, elle a battu l'OCK. Hein. Contre le Raja, c'était un peu moins attendu. Contre l'OCK, c'était dans la foulée tout de suite après. Et là, bon, ils ont ralenti un petit peu. Dans ce sens que, bon, ils ont quand même dominé toute la première mi-temps. Hein. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que Berkane. Et Berkane, si tu veux, bon, c'était un Berkane très, très italien hier, puisque un tir cadré, un but. Voilà.
Donc, Berkane italien.
Voilà.
J'ai jamais entendu ça.
Ouais. Ben oui, parce qu'il paraît que les Italiens, ça joue la défense et ça tire très peu au but. Avant.
C'est toi qui l'as dit,
oui.
C'est pas moi.
Alors, non, mais c'est...
c'est pas moi.
Alors, un but d'Achir, donc sur un centre, il y a eu un centre d'Aziz, bon, ensuite, une déviation de la tête de Dayo, un cafouillage, et puis bon, je dois dire que, donc Achir s'est retrouvé pratiquement le ballon dans les pieds, et 1-0 pour Berkane, un petit peu contre le cours du jeu, puisque bon, à la mi-temps, il y a 1-0 pour Berkane, mais Tanger n'avait pas démérité. Bon, Tanger va revenir dans le match avec Wahabi, donc à la 53e minute, c'est l'arrière gauche, et voilà, donc 1-1, c'est juste comme résultat, c'est un match très équilibré. Il faut justement, je voulais revenir peut-être en première mi-temps avec la transversale de Mouden, donc pour Tanger. Mais finalement, c'est juste une occasion peut-être perdue pour Berkane, hein, qui avait la possibilité de revenir, je dis pas à hauteur du Raja, mais se rapprocher d'eux, puisqu'ils ont le même nombre de matchs et ils sont à 4 points du Raja. Et là, 2 points de plus, c'eût été quand même un peu mieux, puisqu'ils seraient revenus à 43-45 à 2 points. Voilà.
Alors on peut jeter un œil sur le classement là, et surtout oui. Voir les prochaines affiches.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le Raja reste en tête, donc avec 45 points et 23 matchs. Alors, pourquoi je dis les matchs? Parce que bon, il y en a qui ont 22 matchs, il y en a qui ont 23 matchs, 25 matchs, 24, 26. Donc, alors le Raja 23 matchs, 45 points. Le WAC deuxième, 41 points avec Berkane et Oujda. Donc trois équipes en deuxième position, ex aequo, plus ou moins. Enfin, si on est partagé au nombre de matchs, puisque le WAC a 22 matchs, le Berkane a 23 matchs. MCO 25 matchs, ils ont tous 41 points. Après, il y a le FUS, bon, théoriquement, ils pourraient être en course pour une, ils sont en course pour une place africaine, mais le FUS est, est 5e avec 37 points, donc à 8 points du Raja, avec un match de plus, 24 matchs, et puis les Phares, bon, ils sont 6e avec 35 points. Et là, où le bas blesse, c'est en bas, justement, en bas du classement, excuse-moi ce jeu de mots, avec Benny Melal 11 points, IRT 22 points. Alors les deux ont 23 matchs. Ils ont deux matchs de moins que le 14e. Ça veut dire que ça va être difficile pour eux de remonter. Mais qui va accompagner Benny Melal? Ils sont 4 ou 5 encore. Il y a Tanger, il y a Khouribga, il y a Zmamra, il y a Wedzem et le Hassania d'Agadir. Bon, si on veut, mathématiquement, voilà.
Bon. Alors, mathématiquement, là, on va en Europe. On va faire un tour là-bas et on va voir ce qui se passe. Parce qu'en attendant le calcio, on a deux des Big Five qui ont repris du service. La première Ligue anglaise et la Ligue espagnole. On a eu un samedi quand même assez assez impressionnant. Liverpool-Leeds et hier un Tottenham-Everton. Et qui promettait, avec le duel des bantouches, Mourinho d'un côté, Ancelotti de l'autre, Lino.
Oui, alors d'abord, samedi, Liverpool-Leeds. Bon, Leeds, on le sait, entraîné par Bielsa, le loco. Le fou, el loco, Bielsa. Et donc, néo-promu, champion de D2, face au champion de D1, donc Liverpool. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un 4-3 magique, 7 buts. Bon, à chaque fois, Liverpool a pris l'avantage. Donc, Liverpool a toujours été devant, avec Salah, égalisation de Harrison, Van Dijk, égalisation de Bamford, Salah encore, égalisation de Clich. Et à la 66e minute, après un peu plus d'une heure de jeu, les deux équipes étaient encore à égalité. Et voilà, Momo. Hein, Momo, pas notre ami Momo. Hein, Momo Salah. Il y en a plusieurs d'ailleurs des Momos.
Maurice.
Momo.
Maurice.
Momo. Momo Salah. Momo Salah, donc, qui a marqué à la 88e minute. Et voilà, c'est dommage pour Leeds, donc, ce néo-promu. Bon, mais voilà, victoire de Liverpool. Et puis hier, il y avait quand même deux grosses pointures sur les bonnes touches. Il y avait d'excellents joueurs, évidemment, de part et d'autre, à Tottenham, à Everton. Alors, Everton, c'est le deuxième club de Liverpool. Mmh. Hein. Bon, ils sont un petit peu dans l'ombre. Hein, c'est un petit peu comme l'Espagnol de Barcelone avec le Barça, tu sais. Bon, tu as un club qui gagne tout, qui est sous les feux de la rampe. Et puis, tu as le deuxième club. D'ailleurs, en Espagne, tu as même l'Espagnol de Barcelone qui a dû exiler à Cornea. Hein, donc, à 20 kilomètres, ils ont leur nouveau stade à 20 kilomètres de Barcelone. Et donc il y a Mourinho, deux coupes deux Ligues de Champions, Ancelotti, trois Ligues de Champions, Mourinho une avec Porto, une avec l'Inter de Milan, Ancelotti deux avec l'AC Milan, une avec le Real Madrid. Et voilà, donc 1-0, un but de Levine à la 55e minute. Voilà, donc ça a permis à Everton de revenir de Londres avec les trois points. Quelques belles recrues, notamment Alan, le Brésilien Alan, même s'il a un entrée très british. Alan, where is Alan?
Ben Alan is in the kitchen.
He's at Everton. He play for Everton. Pourquoi? Parce que Ancelotti, lorsqu'il entraînait Naples, c'est un joueur qu'il appréciait et donc il l'a amené avec lui à Everton.
Alors, on va passer à la France. Hier, OL, OM, ça faisait combien de temps, Lino, que l'OM n'avait pas gagné en face du PSG? Pourquoi j'ai dit OL? OL, parce que c'était mon club, tu vois, je me suis trompé. Hein. Ah ouais. Voilà, OM-PSG.
OM-PSG, donc ça fait 9 ans. Hein,
9 ans qu'ils n'avaient jamais gagné.
Depuis 2011, hein, que l'OM n'avait pas battu le PSG. Et puis et d'un autre côté, tu as le PSG qui depuis la saison 84-85 ne s'était pas retrouvé avec 0 point après 2 journées de championnat. Ouais. C'est-à-dire après 2 matchs. Voilà. Ils ont perdu à Lille 1-0 et ils ont perdu hier encore 1-0 au Parc des Princes chez eux. Bon, foulie à Marseille, à 3h du mat, ils étaient tous à l'aéroport pour accueillir
il y avait 300 supporters à l'aéroport, ils étaient complètement fous. Voilà. Mais alors, il y avait de la testostérone sur le terrain, il y a eu 5 cartons rouges.
5 cartons.
Il y a eu 17 cartons ou 18, je sais pas, en tout, mais c'est quoi, c'est une boucherie.
Alors, ce qui est marrant, tu dis 5 cartons rouges, ça veut dire que les mecs se sont mis des pains pendant tout le match. Ouais. Non, ils ont les 5 cartons, c'est à la fin du match.
C'est ça.
Bagarre générale.
Ah ouais.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop, allez faire la douche.
Ça enchaîne sur les tweets après, je te raconte pas, accusé de racisme, etc. Mais il va y avoir une enquête qui va être
ouverte. Mais attends, à mon avis, là, je peux peut-être me tromper, mais le match avait commencé déjà le 23 août.
Ah ouais.
Le 23 août, lorsque le Bayern bat le PSG, qu'est-ce qui se passe? Payet, il envoie un petit texto, un petit tweet, hein, et voilà, qui se moque un petit peu des Parisiens. C'est pas demain que vous allez être champion d'Europe, etc., etc.
Alors, les matchs de foot commencent à me rappeler les matchs de boxe, tu sais, dans les conférences de presse où ils commencent déjà à se gueuler dessus pour essayer de déstabiliser. Ouais. Ça fonctionne comme ça maintenant, le foot. Hein.
Ça fonctionne justement avec des tweets malheureux qui partent comme ça plus vite que leur ombre. Et donc Payet, c'était la cible. C'était la cible, donc, justement, des joueurs du PSG. Alors après, il y a Neymar qui dit, ouais, Alvaro González est raciste. Je sais pas. Bon, ils sont, est argentin. Peut-être, je sais pas. Peut-être raciste, mais pas au niveau de la couleur de peau. Peut-être au niveau de la nationalité, hein, brésilien, un argentin, raciste.
Tout le monde a un raciste quelque part.
Voilà. Après, il y a Paredes qui a été odieux aussi, etc., etc. Voilà.
Alors, très rapidement, vraiment, 20 secondes, des nouvelles de nos joueurs marocains qui évoluent en Europe. On peut dire qu'il y a de bons débuts pour Naïef Agged avec le Stade Rennais. Mais en revanche, Ziyech, pour toi, il sera douteux avec Brighton-Chelsea.
Oui, alors voilà, donc Naïef Agger, donc il a marqué hier, il s'est illustré donc avec son club, le Stade Rennais. Donc il a contribué au succès du club breton, donc 4-2 contre Nîmes. Alors il joue au poste d'arrière central, comme Rossi, Youssef Rossi, qui lui aussi a joué à Rennes, lui aussi a joué arrière central. Voilà, donc ce Agger, qui est un ex-Fus, ex-Dijon. Et puis, comme tu disais si bien, Ziyech est incertain ce soir pour Brighton and Hove Albion contre Chelsea.
Voilà, c'est la fin du Morning Foot. Toute l'actu du foot, ça sera tous les matins à partir de 8h10. Il est 8h24 et on prend un auditeur avec nous, notre premier auditeur. Et oui, en réaction au tas de la Wii Direct d'aujourd'hui à 7h45 sur la guerre qui oppose, on peut parler de ça, hein, la compagnie nationale, la Royal Air Maroc et les pilotes, on a Oussama qui nous appelle de Paris. Bonjour Oussama.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Très bien. Alors je vous donne une minute, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation entre les pilotes de ligne et la RAM ?
Je pense que c'est... Il faut pas comparer la RAM avec les pilotes parce qu'ils ont pas le même poids. Mais j'ai un avis externe. J'ai pas de parents pilotes ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste un avis concernant la RAM. Bon, déjà, il faut pas opposer les deux parce que c'est pas les mêmes poids. Parce que la RAM, ils font de la publicité sur des journaux qui sont payés pour défendre un point de vue. Bon, heureusement que qu'il y ait des médias qui sont plus ou moins indépendants par la Radio Mars qui donnent la parole à des représentants de pilotes.
On va donner la parole aux deux.
On n'est ni pour les uns ni pour les autres, mais on essaie de comprendre la situation. La parole à la partie qui est faible aussi, parce que c'est pas le même poids, c'est pas le même budget derrière de communication de la RAM ou des pilotes. Alors, je pense que la RAM, le problème d'IA, c'était déjà une boîte en restructuration, même avant le Covid. Ou malheureusement, avec cette crise de Covid, ils vont, entre parenthèses, en profiter pour assainir un tout petit peu les comptes en virant les pilotes. Le problème, c'est que le secteur de l'aéronautique, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Ou malheureusement, au Maroc, quand on a un actionnaire qui est l'État dans une entreprise, c'est, entre parenthèses, un frein à une vraie restructuration. Parce que la compagnie sait déjà que, même si elle a des pertes en fin d'année, il y a un contrat programme qui va être signé, il y a des subventions qui vont être mobilisées. Donc c'est un frein un tout petit peu à la bonne gestion, c'est-à-dire que si la RAM demain, elle devient une compagnie privée, je pense que la situation, elle sera meilleure. Parce que la question qu'il faut se poser au-delà de le contexte du Covid, c'est que dans un secteur où des fois t'as une position concurrentielle qui est des fois favorable, par exemple pour la RAM, pour les pays de l'Afrique subsaharienne, les prix des billets, ils sont chers. Quand on compare le prix d'un... Je réside en France, donc oui. Je fais au moins 3-4 allers-retours au Maroc. je peux témoigner de ma position là par rapport à la rame. Le rapport qualité-prix, il n'est pas intéressant. Je suis marocain, j'aimerais bien aider une compagnie marocaine. Walakin, le... Allô ?
Oui, oui, on vous écoute.
Ouais. Le rapport qualité-prix, il est très défavorable. Du coup, je privilégie prendre un billet avec Air France ou avec n'importe quelle autre compagnie aérienne. Ouais. En dépit, même si je pense que le problème aussi, c'est qu'on a toujours envie d'avoir avec le prestige d'avoir une compagnie nationale. Walakin, il faut toujours peser combien ça nous coûte. Combien ça coûte aux contribuables. Parce que donc, les contrats programmes qui sont signés, Anna, je pense que avec l'argent, elle sera plus utile si elle va être allouée pour construire des écoles ou des hôpitaux que être allouée juste pour avoir une compagnie aérienne que les gens, je pense qu'ils l'apprennent des fois juste quand ils sont entre parenthèses obligés.
C'est juste merci. Un point de vue. Merci Oussama, merci pour ce point de vue. Voilà, en tout cas, vous, si je retiens ce que vous nous avez dit, vous pensez que la rame pourrait être privatisée. Et puis, bon, bah, voilà, après, il y a une question économique derrière et de prestige par rapport à ça. Il est 8h27 dans le nouveau Mars Attag. Il faut bien gagner de l'argent. Et en ce moment, c'est très dur de faire entrer de l'argent. Donc, quand il y en a, on le prend, c'est la pub. Et après, Lino attaque le coup de gueule de Lino.